oui, bien le bonjour. Bienvenue, les voies de service, édition magazine. Pardon. Nous sommes donc vendredi le 17 août 2018. C'est Hélène Bédard qui vous parle. En studio avec moi, j'ai ma fidèle collaboratrice, Francine Forget. Bonjour.
Bonjour Hélène, fidèle animatrice.
Merci. Et à la régie, je salue Jean-François Roy.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Content de faire équipe avec vous.
Ouais, nous aussi, nous aussi. Alors, ce matin, nous allons donc vous entretenir de... Francine, commencez par vous.
Alors, je ne pouvais pas passer à côté du sujet de l'heure, c'est-à-dire pas les élections, non, mais les changements climatiques cette semaine. Alors donc, à quoi va ressembler le Québec en 2050? Ouh. Pour vous faire plaisir, Hélène, je vais parler de crypto-monnaie parce que ça fait quand même un certain temps qu'on en a parlé.
M'ennuyer.
Et oui, j'imagine. Et si on a le temps... On va aller en vacances avec notre philosophe qui, semble-t-il, les passe avec Aristote.
Tiens donc, je ne le connais
oui,
pas, lui.
Oui.
J'espère qu'il est agréable en voyage. Alors voilà, de mon côté, moi, je vais vous parler des seniors et de leur isolement ou de leur solitude, ainsi que... Et ça, j'ai trouvé un article fort intéressant, le regard d'un autre pour choisir ses vêtements. Je vais donc vous en parler dans... Vraiment pas longtemps, tout de suite après la pause. Nous voici de retour et je vais laisser Francine Forget débuter avec son texte.
Oui, en fait, c'est un dossier que je vais vous lire en deux parties sur les changements climatiques. Alors, à quoi va ressembler le Québec en 2050? Ça va être complètement différent. Les canicules qui se succèdent à un rythme alarmant au Québec cet été comme ailleurs ne trompent pas. Le réchauffement planétaire est déjà commencé. Il va maintenant s'accélérer et le monde n'aura pas d'autre choix que de s'adapter. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts?
Je ne sais pas dans 30 ans si je vais être encore prête.
Non, mais là. Alors, c'est un dossier d'Isabelle Haché qui est paru dans la presse plus du 11 août 2018. Scénario. Alors, nous sommes dans un scénario. J'annonce pas de catastrophe. Montréal, 11 août 2050. Il n'est pas encore midi et le mercure affiche déjà 38 degrés Celsius. La canicule sévit depuis la Saint-Jean-Baptiste sans interruption. Hormis 3 jours de pluie torrentielle qui ont inondé encore la vallée d'asphalte et de béton que forme l'autoroute des Carrés. Malgré les plans d'urgence, la chaleur accablante a tué des dizaines de personnes âgées depuis le début de l'été. Les climatiseurs fonctionnent à plein régime. La facture d'électricité des Montréalais risque d'exploser à la fin du mois, tout comme la facture d'eau, désormais rationnée. Les politiciens promettent de faire plus, de faire mieux. En cette période de pré-campagne électorale, ils participent aux traditionnelles épluchettes de blé d'Inde, désormais cultivées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le sirop d'érable, quant à lui, provient de Baie-Comeau. Dans le sud du Québec, il y a longtemps qu'on n'a plus visité une cabane à sucre ou vu un Noël blanc. Si on veut de la neige en hiver, mieux vaut se rendre en Gaspésie, qui connaît un boom touristique sans précédent. Dès la mi-janvier, des skieurs de l'Ontario et du nord-est des États-Unis empruntent la route 132, ramenée à l'intérieur des terres, pour échapper aux assauts du fleuve afin de profiter de la neige naturelle qui n'est pas tombée chez eux depuis des années. Cet été, ce sont les Montréalais qui se sont rués en masse dans la péninsule gaspésienne. Ils fuyaient la canicule, mais aussi une grave épidémie de fièvre provoquée par un virus découvert il y a une trentaine d'années en Amérique latine, et porté par des moustiques ayant rapidement migré vers le nord. Un Québec méconnaissable. Je vous rappelle qu'on est en 2050. Science-fiction? Bien sûr, mais rien que les scientifiques n'aient pas projeté dans diverses études visant à établir les effets potentiels du réchauffement climatique au Québec. Le scénario imaginé s'inspire très librement de projections contenues dans la synthèse des connaissances sur les changements climatiques du Québec. Ce document de référence, publié en 2015 par le consortium Ouranos, a requis 2 ans de travail et mobilisé une centaine d'experts. Le réchauffement a déjà commencé, nous rappellent trop bien les canicules qui se succèdent à un rythme effarant cet été au Québec, comme ailleurs dans le monde. Il va maintenant s'accélérer, et il faut s'attendre à ce que le Québec de 2050 soit méconnaissable, prévient Dominique Paquin, spécialiste en simulation et analyse climatique chez Uranos. Ça va être un monde complètement différent. Un monde auquel il faut s'adapter pour survivre. La quantité d'efforts que nos enfants vont devoir déployer autour de cet enjeu, on a encore de la difficulté à se l'imaginer, craint Stephen Guilbeault, directeur d'Équiterre. Si on continue au rythme actuel, avec des émissions très fortes de gaz à effet de serre, les fameux GES, on peut s'attendre à un réchauffement de 3,5 ou 4 degrés Celsius en 2050. Conséquence probable, voire inévitable, de ces 3 ou 4 degrés supplémentaires, vagues de chaleur accablantes, pluies diluviennes, érosion des côtes maritimes, bouleversement des écosystèmes, migration de la faune et de la flore vers le nord, et destruction de récoltes avec l'arrivée en masse d'espèces envahissantes, entre autres. À Montréal, le nombre de journées de canicule va au moins tripler, selon le docteur Pierre Gosselin, coordonnateur du programme de recherche santé au sein du consortium Uranos. Il y aura environ 50 jours au-dessus de 30 degrés Celsius à Montréal. Autrement dit, des étés presque complets de canicule. Les personnes âgées et vulnérables en paieront le prix. Des études récentes montrent que le nombre de décès liés à la chaleur va augmenter de 50 à 100 % sur la planète en 2040, de poursuivre le docteur Gosselin. L'hiver québécois tel qu'on le connaît n'existera plus. Il ne durera que quelques semaines. L'hiver se réchauffe davantage que l'été. On peut s'attendre à un réchauffement hivernal de 5 ou 6 degrés Celsius, dit Mme Paquin. Il y aura de moins en moins de neige. Et peut-être que les patinoires extérieures disparaîtront, puisqu'il y a un coût à maintenir des infrastructures hivernales quand les températures ne sont pas assez froides pour les maintenir naturellement. Dans le cas des patinoires, c'est vraiment pas un scénario de science-fiction. C'est déjà une réalité qui commence à poindre. En janvier, la Ville de Montréal a par exemple annoncé la fermeture définitive de la patinoire naturelle du lac aux Castors sur le Mont-Royal, parce qu'elle n'avait pu être ouverte que 37 jours l'hiver dernier. Naguère, les Montréalais pouvaient y patiner une centaine de jours chaque hiver.
Oh là là.
D'autres signes s'accumulent et ne mentent pas. Ce cardinal qui chante dans la cour à Montréal et dont la présence était autrefois exceptionnelle. La fonte de pergélisol, qui est la strate du sol qui est gelée en permanence normalement, qui met en péril maisons et routes du Grand Nord. La promenade de Percé, maintes fois dévastée par les tempêtes. La maladie de Lyme, qui se propage toujours plus au nord de la province grâce à la migration de souris porteuses de tiques infectées par la bactérie. Cette semaine encore, des scientifiques ont annoncé au Québec l'arrivée de la veuve noire du Nord, une araignée heureusement moins dangereuse qu'on pourrait le croire. Si on m'avait dit quand j'étais au baccalauréat que sa niche écologique allait s'étendre au Québec avant 2020, j'aurais été bien surpris, a confié l'entomologiste Maxime Larrivé jeudi à la presse. Mais voilà, les changements climatiques sont beaucoup plus rapides que prévu. Le train est en marche, impossible de revenir en arrière. Même si on y parvenait à éliminer du jour au lendemain toutes les émissions de GES de la planète, explique Dominique Paquin. Il y a tellement de carbone accumulé dans l'atmosphère que le réchauffement va continuer pendant au moins un siècle. Il n'est plus question de savoir si on doit s'adapter, mais plutôt comment le faire, préviennent d'ailleurs les scientifiques du consortium Uranos dans leur synthèse. On n'est pas prêt, s'inquiète le docteur Gosselin. On consacre
beaucoup plus d'argent à lutter contre les GES qu'à s'adapter au changement climatique, dit-il.
Or, les GES continuent à augmenter partout dans le monde. C'est bien triste, mais il faut réaliser que ça ne marche pas très fort jusqu'ici, la réduction des GES, et qu'il faut donc se préparer en adaptant nos villes, nos systèmes, nos façons de faire. C'est la prochaine grande priorité. Je poursuivrai, Hélène, ce dossier d'Isabelle Haché un peu plus tard en imaginant ce que serait le Québec en 2050 au temps du réchauffement.
Et j'espère bien que cette fois-là, il y aura une image un peu plus fleurie, un peu plus optimiste, parce que je vous avoue que ça m'a un peu attristée
d'entendre
tout ça.
Oui, mais attendez, vous allez voir, il y a quand même quelques petits effets positifs. On en reparle tantôt.
Merci. Alors, voici de retour Hélène Bédard au micro. Moi, de mon côté, je vais vous entretenir d'un article qui m'a étonnée et je veux vous en faire part. C'est « S'habiller sans se voir ». Je sais pertinemment où nous nous trouvons actuellement et pourquoi je fais cette émission, mais ce que je vais vous lire, je n'y avais jamais pensé. Alors, je vous en parle. Elles ont perdu la vue durant leur vie ou dès la naissance. Je parle ici de José et de Catherine, ont cependant à cœur de s'habiller selon leur style pour envoyer une image qui leur correspond. Au quotidien, cela demande une organisation millimétrée. C'est un texte de Chloé Mario paru dans la presse le 5 août dernier. Je veux une robe, pas de couleur vive, sans trop de motifs, qui arrive au-dessus du genou, qui soit assez fluide et confortable, indique José, 50 ans. Je cherche aussi des sandales blanches, noires ou grises qui vont avec tout. Et de résumer dans un éclat de rire, je suis difficile, je sais ce que je veux, je me souviens de ce que j'aimais, faisant allusion à la période où elle avait toutes ses capacités visuelles. José a graduellement perdu la vue à partir de 2003 à cause de deux maladies, la cataracte et le glaucome. Aujourd'hui, elle est non-voyante. Elle est agente de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, ce regroupement offre entre autres un service d'aide bénévole pour épauler les aveugles au quotidien. Pendant 13 ans, José a été accompagnée par la même bénévole pour magasiner. Mais celle-ci a arrêté. Alors ce jour-là, c'est Guenièvre Sandré, une comédienne de 29 ans, qui lui prête main forte. La jeune femme accompagne parfois des non-voyants au musée ou à l'épicerie, mais magasiner, ça, c'est une première pour elle. On a beaucoup jasé au téléphone pour que je lui explique mes goûts, précise José. Il faut établir une relation de confiance. Si quelqu'un nous dit ensuite que ça ne va pas, ah, c'est vraiment pas plaisant. Entre les deux femmes, le courant est passé. Elles se sont donc donné rendez-vous pour 2 heures de magasinage. À 90 degrés. Guenièvre dirige donc José, canne blanche à la main, jusqu'au magasin que cette dernière a choisi. Une enseigne qu'elle fréquentait avant de perdre la vue. Une fois à l'intérieur, Guenièvre s'attelle à décrire avec le plus de précision possible chaque robe qui pourrait plaire à José. Celle-ci est rose, un peu comme la crème glacée aux framboises. Il y a plusieurs bretelles qui se croisent, des motifs, de feuilles blanches et noires. Elle en attrape une et une autre. Ah, celle-ci est bleu turquoise, avec une fermeture argentée à l'arrière. Elle est très simple, légère. Dans le même temps, José touche les matières, les formes. Le décolleté ne me plaît pas. La matière, on dirait un rideau. Celle-ci est trop longue, commente-t-elle. Et le duo enchaîne ainsi sur une dizaine de modèles. José dit, au toucher d'un haut à épaule dénudée, pièce que José n'a pas connue avant de perdre la vue, elle est un peu déconcertée. Mais c'est quoi ça? C'est une jupe? Finalement, José file dans la cabine d'essayage avec 5 robes. Celle-ci est belle, elle vous va très bien et met votre temps en valeur, s'enthousiasme Guenièvre, pendant que José essaie ses vêtements. Au bout du compte, elle repart avec 3 robes, une rose, une noire et une tricolore avec des palmiers. Le binôme se dirige ensuite dans une enseigne voisine et évite quelques personnes inattentives, les yeux rivés sur leur cellulaire qui se dirige tout droit sur José. Au passage, elle demande à Guenièvre « Comment es-tu habillée, toi? » Les deux se mettent à la recherche de sandales. « Un jour, je ne t'ai pas réveillée et pressée. J'ai mis 2 sandales du même modèle, mais de 2 couleurs différentes. » Et personne ne m'a rien dit avant que j'arrive au bureau, se souvient-elle en riant. Elle prend toujours le soin d'acheter des pièces qui se marient avec tout. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Au quotidien, elle utilise une application sur son cellulaire qui lui permet de détecter les couleurs. Elle pointe son téléphone vers le vêtement et celui-ci lui annonce la couleur à voix haute. Oh wow! Il lui arrive de faire du magasinage seul, mais cela est rare. Seulement pour une veste noire, par exemple, ça, elle le fait. Pourquoi faire appel à une bénévole plutôt qu'à son entourage ou à un vendeur à ce moment-là? Le vendeur n'a pas toujours le temps, idem pour l'entourage, et puis on veut être autonome. L'entourage a tendance à vouloir nous habiller selon ce qu'ils aiment, pas selon nos goûts. Je suis plus à l'aise avec une bénévole. José a cependant eu quelques expériences peu concluantes. Certains ne décrivaient pas assez les vêtements et il faut être franc, nous dire si ça nous va ou pas. Elle n'a jamais été une grande femme de magasineuse, mais elle reste coquette. Et surtout, elle veut renvoyer une image qui lui correspond, ce qui lui manque le plus, c'est depuis qu'elle a perdu la vue. Celui donc, ce qui lui manque le plus, c'est me voir dans un miroir et me voir dans le regard des autres. Alors ça, j'en ai fait mon deuil. Je sais ce qui me va, je sais ce qui ne me va pas. Le bleu va bien avec mes yeux, mais je ne porte pas de jaune quand je suis blonde, ni blanc ou de vert parce que je suis pâle. J'ai un penchant pour le rouge et toutes ces déclinaisons indiquent Catherine, voici une autre cliente. À l'entendre, cela peut surprendre, mais cette Montréalaise de 23 ans, qui ne voit pas depuis sa naissance, maquillage discret, manucure, bijoux, elle aime prendre soin d'elle et s'apprêter. La première chose que les gens voient chez moi, c'est que je suis aveugle. Alors c'est important pour moi de bien me présenter, précise-t-elle, et d'ajouter « être aveugle fait partie de moi et cela ne me dérange pas ». Certains vont s'arrêter à ça, mais ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Elle vient d'obtenir son baccalauréat en droit et souhaite devenir avocate. Elle portera donc la fameuse toge noire et gardera pour le reste son style classique, sobre et élégant. C'est un métier avec des clients, des avocats adverses de l'humain. L'image que l'on renvoie est primordiale. Au secondaire, elle se souvient d'avoir eu un style un peu plus rock et d'avoir porté beaucoup de pièces noires. Désormais, j'aime qu'il y ait un peu de couleur. Au fil des années, je m'en suis fait ma propre définition. Pour elle, magasiner est un plaisir. Elle y va régulièrement avec des amis et sa sœur. Sinon, elle achète en ligne, notamment sur H&M, Aldo ou La Vie en Rose. Je vais sur des sites où les descriptions des vêtements sont détaillées. Finalement, c'est même plus précis que si je me faisais accompagner en magasin. La description est lue grâce à un logiciel lisant à haute voix l'écran de son ordinateur. Pour les chaussures, en revanche, elle préfère aller en boutique. Je porte tous les jours des talons. Au départ, c'est un peu compliqué car il faut savoir où sont les bosses et les trous, mais ça, ma canne peut me l'indiquer. Il m'arrive de porter des talons aiguilles. Ça, c'est un peu plus compliqué pour l'équilibre. Je préfère en porter des petits. Elle devrait bientôt avoir un chien guide et elle devra s'adapter car cette fois-ci, rien ne lui indiquera un changement au sol. Dans l'appartement où elle habite seule, Catherine s'est organisée pour s'y retrouver facilement. Sa garde-robe est rangée selon ce qui lui convient le mieux. Pantalons triés par couleur, pièces ordonnées des plus légères aux plus chaudes, des moins habillées aux plus chics. Comment se repère-t-elle au toucher, aux textures, à la forme, aux détails? Je me souviens de tous mes vêtements par cœur. Tout est consigné dans ma tête, dit-elle en souriant. Pour les pièces qu'elle porte rarement et qu'elle a du mal à reconnaître, elle appose une étiquette sur laquelle est inscrit un numéro. Un stylo électronique apposé sur l'étiquette lui permet d'identifier l'inscription. Le stylo passe alors l'audio qu'elle avait enregistré pour décrire cette pièce. D'autres personnes optent pour des étiquettes en braille qui indiquent la couleur du vêtement. Autre technique pour se faciliter la tâche, mettre sur un même cintre les tenues qui se marient bien. Et le système est bien rodé, à quelques exceptions près. Elle se souvient d'une déconvenue. Un matin, j'ai pioché un jean dans ma pile de pantalons noirs. Une fois que je me suis retrouvé en cours, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un pantalon rouge que je portais avec un chandail mauve. Ouf, c'est pas très cute, mais il était trop tard. Pour son maquillage, elle utilise également des étiquettes lues avec son stylo électronique. Il y a cependant quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai un maquillage semi-permanent sur les paupières car je ne peux pas me mettre du eyeliner et des extensions de cils. Je ne peux pas m'appliquer de mascara. Elle suit la mode, ses amis lui en parlent, mais elle adopte pas forcément les tendances. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que c'est beau. Et de résumé, l'important, c'est que je me trouve belle. Alors, c'était un très, très beau texte de Chloé Mario paru dans la presse le 5 août dernier.
Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Aux amis, après nos élans défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi.
Une magnifique mélodie qui était chantée par Fanny Bloom, c'était Sami.
Merci beaucoup, Jean-François. Très belle mélodie. Alors, nous allons poursuivre avec Francine Forget.
Oui, bien, en fait, je vais terminer ce dossier sur les changements climatiques. Alors, donc, on se reporte en 2050, voyage dans le temps. Alors, à quoi on peut s'attendre au Québec avec ce réchauffement? Alors, tantôt, je vous ai parlé des érablières à Baie-Comeau. Alors, l'ère de l'érable à sucre s'étendra jusqu'à Baie-Comeau d'ici la fin du siècle. Mais c'est en théorie. En pratique, la vitesse de migration des arbres est plus lente, de 10 à 45 km par siècle. La plupart des arbres ne suivront probablement pas le rythme accéléré des changements climatiques, explique Robert Sirion. Donc, l'érable à sucre qui a besoin d'un sol particulier, il ne devrait pas se retrouver nécessairement bien établi, si je peux dire ainsi, sur la côte nord en 2050. Des villes arpentées, alors il y aura des orages qui deviendront de plus en plus intenses avec le réchauffement climatique. Alors il faut que les villes soient prêtes à absorber toute cette pluie, ce qu'elles font mal en ce moment avec leurs kilomètres de rues asphaltées où l'eau ruisselle et s'accumule, risquant de provoquer des inondations. Alors il faut repenser les villes. Il y a différentes solutions. Par exemple, pour absorber l'eau, cela peut se faire avec l'installation de toitures végétales et d'asphalte perméable, permettant à l'eau d'être absorbée par la terre. Mm. L'érosion des côtes, alors ça, on a déjà commencé à percer. Récemment, on a inauguré la nouvelle promenade, en fait, c'est en juin, et les scientifiques ont applaudi. Cette fois, cette promenade, elle ne serait plus livrée aux tempêtes. Les autorités municipales ont cessé de lutter contre les éléments, jugeant plus judicieux de déplacer des bâtiments et de recharger la plage de galets. On ne veut pas bâtir des infrastructures comme on le faisait avant, en se basant sur les données du passé, dit Dominique Paquin. Il faut inclure les changements climatiques dans la planification et c'est ce qu'a fait la ville de Percé. Reconstruire le nord du Québec. Nulle part au Québec, le réchauffement ne se fait aussi douloureusement ressentir que dans le Grand Nord. Les Inuits qui essaient de maintenir un mode de vie traditionnel en lien étroit avec la nature peuvent nous parler pendant des heures de ce qu'ils observent, raconte Robert Sirion, qui est coordonnateur des régions nordiques chez Uranos. Des ponts de glace disparaissent, le dégel du pergélisol fragilise les bâtiments, endommage les routes et bousille les pistes d'atterrissage. Le gouvernement a déjà entrepris la reconstruction de maisons et d'infrastructures routières. Ce sont des enjeux qu'ils vivent au quotidien, ces populations du Nord. Tirer profit du réchauffement, oui, chaque ménage aura son climatiseur. Mais avec la dimension des besoins en chauffage l'hiver et la hausse du débit des rivières, Hydro-Québec va bénéficier des changements climatiques. On prévoit que la demande en énergie aura diminué de 2,7% en 2050. Mais tout n'est pas gagné parce que la société d'État devra composer avec plus de déluges, d'incendies de forêt, de tempêtes de verglas et d'autres événements climatiques extrêmes. Les agriculteurs, par contre, vont tirer profit du réchauffement grâce aux saisons de croissance plus chaudes et prolongées. Les industries touristiques également vont être avantagées. Alors, il y aura des occasions d'affaires, dit Mme Dominique Paquin. Et voilà, c'était ce dossier d'Isabelle Haché dans la Presse Plus sur le Québec et le réchauffement climatique qui a été publié le 11 août 2018.
Merci beaucoup, Francine. Fort intéressant. Alors, nous allons bientôt vous quitter. Une toute petite pause, par exemple. Je vous demande de rester avec nous pour la suite de l'émission Les Voies de service. Ça se poursuit après la pause en quelques instants.
écoutez Les Voix de Service.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, 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 yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died.
Vous avez certainement reconnu cette mélodie, c'est la chanson « Miss You » des Rolling Stones qui datait de 1978, mais cette fois repris à la sauce Carla Bruni, c'est tiré de son dernier album « French Touch ».
Merci beaucoup Jean-François. Pas d'agréable. Alors voilà, Hélène Bédard au micro, nous sommes de retour pour la suite de l'émission « Les voies de service magazine ». Je vais vous entretenir d'un sujet qui me tient toujours bien à cœur, c'est-à-dire c'est la solitude et l'isolement pour les seniors. C'est un texte qui est apparu dans le Huffington Post, dans une édition « C'est la vie ». Alors, c'est paru le 10 août, donc on parle de vendredi dernier. On dit que la solitude est encore plus lourde à porter pendant l'été, dit-on. 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale en France. Autour de moi, je n'ai plus personne, dit André, 85 ans, qui vit seul dans sa petite maison de Yvelines. De nombreuses personnes âgées souffrent encore plus de la solitude l'été quand leur famille ou leurs voisins partent en vacances. Jusqu'à l'année dernière, ce couvreur à la retraite partageait encore son quotidien avec son épouse Christiane. On se mettait au fond du jardin, on allumait le barbecue, on passait un été tranquille. Mais Christiane, qui ne peut plus marcher et communique difficilement, vit désormais en maison de retraite et ne reviendra plus, se désole son mari qui a renoncé aux grillades. Leur fils, sexagénaire, qui habite à l'autre bout de la banlieue parisienne, vient le voir de temps à autre Mais la solitude est lourde à porter et le vieil homme a accepté avec plaisir de recevoir Marie chaque semaine pendant l'été. C'est un coup de pouce proposé par le conseil départemental, créé après la canicule de 2003, donc des étudiants rémunérés comme Marie, pour s'assurer que les personnes âgées seules ne manquent de rien et surtout bavarder avec elles. Je suis content qu'elle soit là, on parle de tout, de rien, sourit l'octogénaire qui l'accueille dans son salon, une cigarette aux lèvres. Étudiante en psychologie, celle-ci confie qu'au début, elle appréhendait de ne pas trouver de sujet de conversation lors de ses visites régulières chez des seniors. Mais elle a été vite rassurée. On parle cinéma, littérature, voyage. Les gens sont très demandeurs de ces moments d'échange, sourit cette jeune femme de 22 ans. Chaleur ou pas, l'idée est avant tout de repérer des fragilités et d'apporter de la convivialité et de répondre à un besoin de contact, souligne Marie-Hélène Aubert, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie. Pour répondre à ce besoin, les petits frères des pauvres ont ouvert en Saône-et-Loire une maison d'accueil temporaire où les plus âgés viennent se ressourcer quelques semaines en été, le temps que leurs proches aidants prennent des congés. Ainsi, l'association organise également des séjours spécifiquement conçus pour les seniors. En juillet et août, les seniors souffrent encore plus de la solitude car les grands-enfants partent en vacances, mais aussi les voisins. Par exemple, ceux qui passent régulièrement pour aider à fermer les volets le soir. Même les auxiliaires de vie sont remplacés, ce qui est perturbant pour des personnes âgées qui tiennent à leurs repères. Tout cela peut conduire à un sentiment d'abandon, estime le sociologue Serge Guérin, spécialiste du vieillissement. D'autant que l'été, c'est comme Noël, c'est une période un peu mythifiée où la solitude devient plus palpable. Attention toutefois, prévient-il, à ne pas pointer injustement du doigt les enfants adultes de ces juniors qui ont naturellement le droit de souffler et de prendre des vacances. Une grande partie de la solidarité envers les plus âgés repose sur les plus de 8 millions d'aidants en France qui sont pourtant peu reconnus, souligne-t-il. Des seniors abandonnés le temps d'un été par leurs enfants, ce sont des situations marginales, abonde Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants. Elle préfère évoquer ces situations où les familles ne s'entendent pas ou ne sont jamais entendues, ou bien le senior n'a plus personne pour l'aider parce que les enfants sont déjà très vieux ou même sont morts. En France, quelque 300 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale car elles n'ont plus aucune relation amicale, familiale ou de voisinage, selon une étude publiée en septembre dernier par les Petits Frères des Pauvres. Parfois, lorsqu'une vieille personne que nous avons accompagnée décède, l'église est quasiment vide pour ses obsèques. Il arrive que pour lui dire au revoir, nous ne soyons qu'une poignée de bénévoles et une étudiante qui lui avait rendu visite durant l'été dernier. Une étude britannique récente isole la solitude comme un risque accru de mortalité. Vivre seul serait un facteur accru de mortalité. Cette étude, parue en mars dernier, fait le lien entre solitude et risque de maladie cardiovasculaire. La recherche a été menée partout sur le territoire de la Grande-Bretagne et tend à prouver que vivre seul et voir peu de monde accroîtrait le risque de mourir d'une crise cardiaque ou d'un AVC. 480 000 Britanniques ont répondu à des questions concernant leur isolement et leur entourage. La fréquence de leurs sorties, le nombre de personnes vues par jour, le sentiment ou non de solitude. De quoi déterminer si ces sujets étaient socialement isolés. Dans la revue médicale Heart, les chercheurs des universités de Londres et de Helsinki estiment que l'isolement social et le sentiment de solitude sont associés à un risque plus élevé d'infarctus grave du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Plus important encore, ils soulignent que l'isolement social semble rester un facteur de risque de mortalité indépendant après un infarctus ou un AVC. La solitude est habituellement associée à d'autres facteurs qui justifient une mortalité plus élevée, un mode de vie peu sain comme le tabagisme, une alimentation déséquilibrée, un manque d'activité physique, une mauvaise santé mentale et aussi beaucoup la pauvreté. Mais cette fois-ci, l'étude a pour l'originalité d'isoler ce facteur des précédents pour en faire une vraie cause de mortalité accrue. En excluant ces autres risques, vivre seul augmente ainsi la mortalité de 32 % après un infarctus. La première ministre britannique, Theresa May, avait annoncé en janvier la nomination d'une secrétaire d'État chargée des personnes isolées pour trouver des solutions au fléau social de la solitude. À suivre pour ce qui est de cette nomination. C'était donc un texte paru dans le Huffington Post, « C'est la vie », paru en août dernier. Nous revoici en studio et Francine Forget va encore une fois nous surprendre avec un de ses tricks.
Merci. Alors, tantôt, vous avez parlé d'une application sur téléphone qui est vraiment géniale, hein, qui indique vocalement les couleurs. Mais vous allez voir que ce n'est pas toutes les applications qui sont nos amis. Je dirais ça comme ça. Le crypto-jacking. Je vais vous parler du crypto-jacking. Alors, Hélène Maquelier de l'agence France Presse a écrit un texte à ce sujet qui a été repris sur lapresse.ca le 10 août dernier. Votre téléphone intelligent se met soudainement à tourner au ralenti. Sa température augmente sans raison apparente et la batterie se décharge trop rapidement. Il se pourrait qu'il soit utilisé à votre insu pour fabriquer des crypto-monnaies. Ce nouveau type de cyberattaque est baptisé « crypto-jacking » par les experts en sécurité informatique. Le procédé consiste à piéger un serveur Internet, un ordinateur ou un téléphone et faire fonctionner dessus un logiciel malveillant pour faire une action de minage de crypto-monnaies, explique à l'AFP, l'agence France Presse, Jérôme Billois, qui est expert au cabinet Wavestone. Le processus de minage, qui permet d'authentifier et de créer des bitcoins et autres crypto-monnaies, peut s'avérer très lucratif, mais il nécessite une très forte puissance de calcul et beaucoup d'énergie. S'il est possible de combiner la puissance de plusieurs processeurs en assemblant différents ordinateurs, les pirates informatiques ont trouvé un moyen beaucoup plus économique pour miner ces richesses virtuelles, exploiter les puces présentes sur les téléphones intelligents à l'insu de leurs utilisateurs. De plus en plus d'applications mobiles malveillantes dissimulant des chevaux de Troie associés à un programme de minage de crypto-monnaies sont apparus sur les plateformes. Ces 12 derniers mois, explique à l'AFP David M., chercheur de la Société russe de sécurité informatique Kaspersky Lab. Selon M. M., sur mobile, la puissance de traitement disponible pour les criminels est moindre que sur un ordinateur, mais il y a beaucoup plus de ces appareils et donc, au final, un plus grand potentiel. Pour attirer les utilisateurs, les pirates informatiques mettent souvent en ligne des reproductions factices d'applications populaires, se révélant être des applications de minage dissimulées. Les utilisateurs n'en ont généralement pas conscience de l'attaque, avec pour seuls indices l'autonomie et les performances des appareils qui diminuent brusquement, sans raison apparente, et l'appareil qui peut se mettre à dangereusement surchauffer, explique David M. Une version du populaire jeu Bug Smasher, installé plus d'un million de fois à partir du magasin d'applications Google Play, a été détecté en mars par le groupe de sécurité informatique I7, basé aux États-Unis. Il a averti sur son site que l'application sert en réalité secrètement au minage de la crypto-monnaie Monero. Autre exemple, un logiciel malveillant du nom de CoinMiner a été découvert par le spécialiste de cybersécurité Trend Labs en décembre. Le malware est lancé dans une fenêtre d'un navigateur caché, ce qui empêche l'utilisateur de s'en rendre compte, détaille la société sur son blog. Le crypto-jacking touche surtout les appareils sous Android, le système d'exploitation mobile de Google. L'iPhone est moins visé par les pirates, car Apple contrôle davantage les applications pouvant y être installées, selon les experts en sécurité informatique. Google a d'ailleurs décidé récemment de faire le ménage dans sa boutique d'applications mobiles, Google Play, en informant fin juillet les développeurs qu'ils n'accepteraient plus les applications de minage de crypto-monnaies sur sa plateforme. Selon M. M., Google cherche ainsi à limiter les opportunités pour les cybercriminels. Pascal Ledijol, directeur national chez WatchGuard, spécialiste américain des solutions de sécurité informatique, reconnaît qu'il est difficile de savoir quelle application bloquer, étant donné qu'il y en a des nouvelles tous les jours et que le principe du minage, c'est d'être le plus discret possible. Il existe néanmoins des façons de protéger son téléphone. En dehors de la mise en place d'antivirus, Laurent Petroc, expert de la fraude en ligne chez F5 Networks, conseille notamment de bien maintenir son appareil Android à jour. Il rappelle également que les personnes qui décident de télécharger des applications en provenance de sources non officielles ont davantage de risques de télécharger un logiciel malveillant par inadvertance. Pour M. Le Dijol, il s'agit du jeu de chat et de la souris. Comme dans toute chasse aux cyberattaques, il faut sans arrêt s'adapter aux évolutions des menaces. Alors, c'est ce texte d'Hélène Macquelier de l'Agence France-Presse, paru dans la presse.ca le 10 août, qui fait le point sur le crypto-jacking, dont il faut bien se méfier.
Toujours aussi fascinant, la crypto-monnaie. Merci beaucoup, Francine. Revoici au micro Hélène Bédard. Alors moi, je vais vous entretenir d'un dernier article. Je vous ai déjà lu les deux précédents. C'est paru dans Le Devoir. C'est Christian Rioux qui avait fait une série de 3 articles concernant les filles du roi. Alors celui-ci, ça va être mon dernier. Et il s'intitule « Les filles du roi, ni sainte, ni guidoune ». Alors voilà, je vais débuter avec le cinglant écrivain montréalais Mordecai Richler. Aimait raconter que la majorité des Québécois francophones étaient des descendants de filles de joie. Dans le Haut-Canada, requiem pour un pays divisé, il expliquait que les filles du roi étaient des prostituées envoyées de France pour combler l'insatiable appétit de soldats analphabètes. Mais il aura probablement été l'un des derniers à colporter avec autant de mauvaise foi un ragot qui remonte, lui, au 17e siècle. Il y a en effet 3 siècles que le célèbre baron de Lahontan a donné une certaine crédibilité à cette rumeur. Dans ses nouveaux voyages de l'Amérique septentrionale, Lahontan raconte l'arrivée de plusieurs vaisseaux chargés de filles de moyenne vertu sous la direction de quelques vieilles béguines. Ces vestales étaient pour ainsi dire entassées les unes sur les autres en 3 différentes salles où les époux les choisissaient de la manière que le boucher va choisir les moutons au milieu d'un troupeau. La littérature et les chansons de l'époque ne manquent pas non plus de scènes où l'on décrit le départ de ces femmes et l'empressement des colons cupides à choisir la plus belle, la plus grande, la plus costaude, les plus fortes hanches, etc. D'où vient donc cette confusion? Un siècle avant les filles du roi, Robert Val était venu en Nouvelle-France avec d'anciens prisonniers. Mais l'expédition était repartie. Les Antilles fourniront aussi quelques exemples à ceux qui imaginent les colonies comme un repère de forçats et de prostituées. L'hôpital de la Salpêtrière, d'où sont venues plus de 250 filles du roi, deviendra d'ailleurs une prison par la suite qui va s'appeler la Maison de la Force. Au contraire de celle de Lahontan, l'époque des filles du roi fut celle de la réforme catholique et des sociétés de dévots, comme la Compagnie du Saint-Sacrement, liée à la fondation de Montréal. Elle avait pour mission de bâtir Jérusalem au milieu de Babylone, disait Bossuet. D'ailleurs, l'Ursuline, Marie de l'Incarnation, ne s'était-elle pas plainte qu'il vient en Nouvelle-France beaucoup de canailles de l'un et de l'autre sexe qui causent beaucoup de scandales? L'historien Jean Blain a montré comment cet éloge de la vertu des filles du roi correspondait à l'idéalisation progressive de la société coloniale qui se développait à la fin du 19e siècle. Dans son Histoire de la vie libertine en Nouvelle-France, Robert Lionel Séguin a aussi montré que la diversité des mœurs a toujours régné dans la colonie. Au fait, que sait-on de la moralité de ces aventurières? Pas grand-chose, reconnaît le généalogiste Marcel Fournier. Plusieurs étaient orphelines, mais les filles placées à la Salpêtrière avaient peut-être aussi déshonoré la famille. Ce ne serait pas impossible. L'une d'elles, Catherine Guichelin, venue de Laon en Île-de-France, aurait eu 5 enfants illégitimes de 5 pères différents. L'historien et démographe Yves Landry a cependant démontré que les quelques 800 filles du roi pouvaient difficilement être des prostituées. Parmi elles, on dénombre moins de 1% de naissances hors mariage et seulement 5% d'enfants conçus avant le mariage. À l'époque, les prostituées étaient souvent stériles, dit-il. Or, les filles du roi sont plus fertiles et le sont plus longtemps que la moyenne des femmes de la métropole. Comme les filles du roi jouissaient de meilleures conditions de vie et d'une meilleure alimentation, une fois en Nouvelle-France, Landry soupçonne qu'elles avaient probablement une fréquence plus élevée de rapports sexuels. Certains romans à l'eau de rose, même récents, ont décrit des filles enchaînées qu'on envoyait au bagne. Ce n'était pas le bagne, corrige Maude Sirois-Bell, auteur de plusieurs articles sur le sujet. Mais elles avaient le droit de revenir. En 1667, une douzaine d'entre elles signent une réclamation et refusent carrément de partir parce que les promesses qu'on leur avait faites n'avaient pas été honorées. Des conscrites n'auraient certainement pas agi ainsi. Les filles du roi se marient vite. Il leur faut quelques mois tout au plus pour trouver un bon parti. À l'époque, le mariage est plus une affaire de dot que d'amour. La grande majorité sont parties de leur propre gré. Une fois en Nouvelle-France, elles avaient le gros bout du bâton et pouvaient signer un, deux ou trois contrats de mariage. Le nombre de prétendants était tel que plusieurs filles du roi n'hésitèrent pas à changer de parti à la dernière minute. Les fréquentations étaient brèves. Elles se déroulaient à la maison Saint-Gabriel, sous l'œil de Marguerite Bourgeois. Maude Sirois-Bell a retracé le parcours des deux filles du roi, dont elle est la descendante, Marie-Major et Anne Perrault. Lorsqu'elle eut entre les mains l'inventaire après décès de cette dernière, elle fut bouleversée. « J'étais fière, dit-elle, de descendre une femme de cette trempe qui avait donné naissance à 10 enfants et refait sa vie dans une cabane de bois de l'île d'Orléans. C'était bouleversant. Ces femmes n'étaient ni saintes, ni guidounes, ni pouliches. Je crois qu'on peut dire qu'elles furent les mères de la nation, de notre nation. » Alors, ceci termine la série de 3 articles. Il était écrit par Christian Rioux, paru dans Le Devoir. J'espère que vous avez aimé. Oui, bonjour, rebonjour, je m'excuse. J'étais en train de figurer le temps qui me restait, je suis désolée. Voici, je bien redonne oui. Donc le micro à Francine.
On arrive en fin d'émission. C'est un peu normal, Hélène, que vous soyez préoccupée. Alors, une brève. Une navette sans conducteur à l'essai pour un an à Candiac. On a parlé de cette navette dans la presse plus du 11 août 2018. En fait, c'est Bruno Bisson qui n'a parlé d'une expérience d'une navette autonome sans conducteur, entièrement électrique et gratuite, qui sera mise à l'essai sur la voie publique dans la municipalité de Candiac, en Montérégie, dans le cadre d'un projet pilote d'un an, qui est mené par le transporteur Keolis et le constructeur français Navia. Et cette expérience va commencer le 27 août prochain. Alors, le petit véhicule, qui ressemble en fait à un minibus très futuriste, à ce qu'on dit, transportera jusqu'à 15 passagers, sur un parcours préprogrammé de 2 km entre le terminal d'autobus d'Exo et l'intersection des boulevards Montcalm et Saint-François-Xavier à Candiac. La navette va faire 8 arrêts sur son parcours. Alors, comme un vrai bus, un conducteur sera toujours présent à bord pour répondre aux questions des passagers et prendre le contrôle manuel du véhicule en cas de situation imprévue. Ce projet pilote, en fait, constitue une première canadienne pour un véhicule autonome de transport collectif. Cette expérience est nouvelle dans le sens qu'il y a déjà eu des navettes en service, mais elle va circuler sur une voie publique en présence de véhicules traditionnels, de vélos et de piétons dans un environnement urbain, ouvert et changeant. Alors, voilà, hein? On est rendu là, à Candiac, si on veut voir ce qu'il y en est.
Vous pouvez être sûr, je vais être là. Répétez-moi la date où ça
27 débute. 27 août, ça commence. Et attention, il y a une période en hiver, par exemple, où on va arrêter début décembre, là, probablement à cause de la glace ou je ne sais pas quoi. Mais vous irez faire l'expérience, Hélène.
Absolument, je vais y être et je vous en reparle.
C'est bien.
Alors oui, je vais m'y rendre, c'est sûr, Madame Francine, c'est absolument certain. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un petit article, mais avec une teneur particulièrement importante. Il semblerait qu'il existe 500 erreurs de médicaments en un an auprès des aînés. Un texte de Hugo Duchesne, jeudi le 12 juillet, et qui est paru dans le Journal de Montréal. Des patients de résidence pour aînés se sont vus administrer les mauvais médicaments près de 500 fois en un an, révèle une nouvelle étude. Mais cette statistique pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Le pharmacien toxicologue Pierre-André Dubé de l'Institut national de public du Québec et s'est donc penché sur les appels reçus au centre antipoison entre février 2016 et janvier 2017. C'est le décès d'un Montréalais de 54 ans qui vivait en résidence et qui a reçu une dose mortelle d'un médicament antipsychotique qui ne lui était pas destiné, qui a mis la puce à l'oreille du chercheur. Mais toutes les erreurs ne sont pas rapportées au centre antipoison, prévient-il. La majorité des appels étudiés par M. Dubé proviennent de centres privés qui n'ont souvent pas de pharmacien sur place, contrairement aux centres d'hébergement de soins de longue durée qu'on appelle les CHSLD. Le ministère de la Santé a compté plus de 48 000 incidents liés à la médication dans sa base de données annuelle, dit-il. De ce nombre, 3 concernaient des médicaments remis à la mauvaise personne, dont près de 1 500 cas. Dans le tiers des cas étudiés par M. Dubé, les aînés ont dû être hospitalisés à cause de la toxicité des médicaments avalés. De plus, pour la moitié des 500 erreurs, les aînés avaient ingéré au moins 5 médicaments à la fois. Ce sont des erreurs qui sont évitables. Ce n'est pas normal qu'on donne des médicaments d'une personne à une autre, déplore-t-il, autant que les résidences pour aînés doivent revoir et recevoir des pratiques différentes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous quittons. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Et je remercie encore une fois Francine, merci.
Qui ne sera pas là vendredi prochain, mais dans 2 semaines.
Pas de problème, je vous attendrai. Et je remercie Jean-François, merci.
Merci, c'était le fun, les filles.
Et je vous donne donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous vendredi prochain. Portez-vous bien.
Merci.